Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. En cette année 2012, officiellement déclarée année Rousseau, bien que Rousseau ne soit pas académicien, Canal Académie vous propose plusieurs émissions pour Rousseau, dont deux avec Raymond Trousson, que j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio. Bonjour, monsieur Trousson.
Bonjour, madame.
Merci d'être venu de Belgique jusqu'à nous. Vous étiez professeur de littérature comparée à l'Université libre de Belgique. Vous êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique depuis 1979 et spécialiste de la pensée du XVIIIe siècle. À ce titre, on vous doit de nombreux ouvrages consacrés à Voltaire, à Diderot et à Rousseau, dont le Dictionnaire de Rousseau, qui est paru aux éditions Honoré Champion en 1996, sous une version reliée, très belle, et sous une version plus compacte, et on ne dira pas poche, vu que c'est tout de même une version assez épaisse. Aujourd'hui, ce Dictionnaire Rousseau nous sert pour faire une émission sur laquelle je vous ai proposé de parler de six mots. Je n'en ai pris que six et nous nous sommes mis d'accord sur ces six. Des mots tout à fait évidents chez Rousseau, essentiels, sur lesquels justement on l'attend vraiment, alors que dans la précédente émission, nous avons fait des mots surprenants et un peu inattendus. Donc cette fois-ci, je vous propose les mots amitié, athéisme, citoyen, correspondance, éducation et Jésus-Christ. Alors vous avez la parole pour le premier de ces mots, amitié. Il est joli comme mot.
C'est un joli mot et c'était aussi, aux yeux de Rousseau, un mot essentiel. Comme il dit, « Je fus ami si jamais homme le fut ». Il ajoute que, malheureusement, il n'a jamais trouvé le correspondant exact. Rousseau est en effet un homme qui a fait de l'amitié un véritable mythe. L'amitié, pour lui, n'a rien de superficiel. C'est le sentiment qui existe entre deux personnes, peu importe le sexe, entre deux personnes qui se correspondent idéalement, essentiellement sur le plan de l'émotion et de la sensibilité. L'ami doit avoir en l'ami une parfaite confiance. Il doit être un autre lui-même. Et c'est ce qui explique, bien entendu, que de telles exigences sont parfois difficiles à satisfaire, et c'est ce qui amènera la rupture de Rousseau notamment avec deux de ses tout grands amis de ses débuts, c'est-à-dire le critique Friedrich Melchior Grimm et surtout, bien entendu, Diderot. Alors, ce qui montre à quel point la rupture avec Diderot lui a été pénible, c'est qu'il écrit quelques mois plus tard à un correspondant genevois « J'ai faim d'un ami ». Dans la vie de Rousseau, il y a eu beaucoup d'amis. Depuis sa jeunesse, son cousin Abraham Bernard, puis un jeune apprenti genevois, Bacle, puis un musicien errant en venture de Villeneuve. Et puis, bien sûr, bien d'autres. Il y aura Diderot, il y a Grimm, il y a, bien sûr, Madame d'Épinay. Tous gens avec qui il rompra aux environs de 1758-1760. Par la suite, les choses deviendront plus difficiles. Il nourra encore bien des amitiés au cours de son exil. Par exemple avec Milord Maréchal, qui était le gouverneur de la principauté de Neuchâtel, et qui montre aussi que dans un ami, Rousseau cherchait aussi le substitut d'un père, qui lui avait considérablement manqué. Milord Maréchal était beaucoup plus âgé que lui. Cela montre aussi que l'amitié peut franchir, dans de très rares cas, les barrières sociales. Il nourra une très profonde amitié avec le maréchal duc de Luxembourg, ami personnel du roi. La différence est colossale entre ce simple roturier, ce fils d'horloger, et le maréchal de Luxembourg. Mais l'amitié, la concordance des âmes, permet en effet de franchir ce fossé. Cet éloge de l'amitié, on le retrouvera d'ailleurs aussi dans son grand roman, La Nouvelle Héloïse, où là, il y a l'exemple d'une amitié entre deux femmes, Julie et Claire, qui sont cousines, mais par-dessus tout des amies inséparables et d'une fidélité à toute épreuve, et sur le plan masculin, entre le héros, Saint-Preux, et son ami, un Anglais, Milord Edward Bumstone. C'est vraiment quelque chose chez lui qui est fondamental. Et lorsqu'on reprochera à Rousseau d'avoir, à partir d'un certain moment, rompu avec des amis à qui il cesse de faire confiance, qu'il soupçonne d'être entré dans le grand complot, il faut tenir compte que Rousseau est à ce moment-là malade. Il a une tendance paranoïaque. Il a certainement d'ailleurs subi des persécutions, mais il a très souvent aussi soupçonné très injustement des gens qui, en réalité, lui étaient extrêmement fidèles, comme par exemple à un certain moment la marquise de Verdelin ou la comtesse de Boufflers, qui l'accusent des pires intentions alors qu'elles ne sont en rien responsables. Et il rompra ainsi successivement jusqu'à la fin de sa vie avec des gens avec qui parfois il était lié depuis des années.
On a l'impression que c'est un homme qui non seulement lui cherchait l'amitié, mais que les autres aussi le recherchaient comme ami, car il avait beaucoup de relations, qu'il l'aimait, qu'il l'appréciait, qu'il le soutenait financièrement.
Oui, mais justement, vous touchez un point délicat. L'amitié suppose précisément qu'il n'y ait rien de matériel ou de financier entre eux. Faire un cadeau à Rousseau était une chose extrêmement difficile, parce qu'il voyait dans le fait de recevoir un cadeau une aliénation. Puisque vous m'offrez quelque chose, vous m'aliénez, je vous dois de la reconnaissance. Donc, les cadeaux ne sont que très rarement acceptés et uniquement de ceux qu'il considère comme de véritables amis. Encore s'agit-il de cadeaux de bagatelle, hein ? Il s'agit d'une bouteille de vin ou d'une robe pour Thérèse Levasseur. Il ne s'agit jamais de cadeaux importants qu'il aurait de toute façon refusés. Vous savez, quand le prince de Conti lui envoie deux fois de suite du gibier tiré de sa main, quel honneur ! Eh bien, à la deuxième lettre, Rousseau écrit à la comtesse de Boufflers, qui était la maîtresse de Conti, « Écoutez, j'ai accepté deux fois, maintenant, suffit.
Je ne voulais pas devoir, il ne voulait rien devoir.
Je reviens à mes principes, je ne dois rien à personne. »
Il ne doit rien à personne.
Ce qui explique d'ailleurs qu'à partir d'un certain moment, et très tôt d'ailleurs, il refuse radicalement d'écrire, selon la formule traditionnelle, en signant « Votre très humble et très obéissant serviteur ». Formule qu'il bannit parce qu'il la considère comme dégradante. C'est ce qui explique d'ailleurs, il le dit lui-même. C'est pourquoi je n'ai jamais écrit directement comme ça au prince de Conti, parce que je ne voulais pas me dire son très humble serviteur et que tout de même, un prince du sang, il ne savait plus comment l'appeler.
Merci à Raymond Trousson de nous éclairer sur les mots rousseauistes, les plus évidents, quelques-uns de ces mots. En tout cas, alors je crois que le mot athéisme est tout de même un mot sur lequel on a beaucoup de choses à dire par rapport à Rousseau.
Oui, il est certain que Rousseau n'a jamais été athée. Mais il est vrai qu'il a vécu à une certaine époque, particulièrement après son retour de Venise en 1944 jusqu'en 1956, quand il quitte Paris pour s'installer à l'Ermitage. Pendant une douzaine d'années, il a vécu dans une société où les athées ne manquaient pas. Des gens comme Diderot, qui lui était particulièrement proche, ou le poète Saint-Lambert, étaient des athées, des matérialistes convaincus, de même que le baron d'Holbach. Or, Rousseau le raconte dans les rêveries, dans les discussions auxquelles il participait, il dit « j'ai parfois été ébranlé, mais ils ne m'ont jamais convaincu ». Ce qui l'a ébranlé, c'est à l'occasion la force des raisonnements rationalistes de ces athées, mais raisonnements rationalistes auxquels lui oppose la conviction intérieure inébranlable. À ses yeux, tout prouve l'existence de Dieu, à commencer par la nature elle-même, qui est évidemment la grande image de l'univers rousseauiste, et l'existence en l'homme de la conscience et de la liberté. Il a donc pu parfois être ébranlé par certains raisonnements, mais jamais il n'a basculé dans l'athéisme. Pour lui, un athée est une sorte d'infirme moral. C'est un homme qui ne veut pas voir, ou alors qui est de mauvaise foi, comme il en accuse d'ailleurs certains philosophes de ses anciens amis. Avec pourtant un paradoxe. Il existe dans l'œuvre de Rousseau un athée très positif. C'est M. de Volmar dans La Nouvelle Héloïse. Or, La Nouvelle Héloïse, indépendamment de tout ce qu'elle contient sur le plan du roman d'amour et de toute une série de questions économiques, politiques, pédagogiques, etc., est aussi un roman engagé dans la mesure où Rousseau se proposait de démontrer aux athées qu'on peut être dévot sans être bigot et intolérant, c'est le cas de Julie qui, elle, est au contraire profondément croyante, et de démontrer aux dévots que l'on peut être athée sans être un scélérat. C'est évidemment une démonstration paradoxale, et ce qui montre bien d'ailleurs que Rousseau ne la pousse pas jusqu'au bout, c'est que la mort édifiante de Julie à la fin du roman laisse entendre que Vollmar peu à peu est ébranlé par la véritable dévotion admirable d'ailleurs de Julie, qui est à peu près la profession de foi du vicaire savoyard, et il laisse entendre que, sans doute, Vollmar ouvrira-t-il les yeux à la vérité.
Est-ce que Rousseau avait un côté justement militant dans sa foi pour faire justement contrebalancer ces athées qui avaient une place importante dans la société du XVIIIe ?
Oui et non. Disons que Rousseau n'a jamais essayé de faire de prosélytisme direct. C'est pas un chef de secte, bien entendu. Mais il n'a jamais non plus caché ses convictions profondes. Et la profession de foi du vicaire savoyard dans les Milles est au fond l'exposé, pas le premier ni le dernier, mais le plus complet, disons, de la manière dont il conçoit la religion, l'immortalité de l'âme, etc. Mais c'est une religion très personnelle, qui ne s'occupe ni de la naissance virginale, ni de l'incarnation, ni des mystères, ni des miracles, ni des dogmes. C'est une religion extrêmement indépendante et personnelle, touchante d'ailleurs et moralement admirable, mais qui le brouille forcément avec tout le monde. Avec les catholiques, bien sûr, mais aussi avec les protestants, et, paradoxalement, avec les philosophes. Parce que la profession de foi du vicaire savoyard éveille, à l'époque, un nouvel élan religieux. Les gens, à cette époque, ont souvent une foi rationaliste ou une dévotion machinale. Bon, on va à l'église et c'est chez son confesseur parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Au contraire, Rousseau va bien au-delà de cela. Il balance toutes ces formules toutes faites pour aller vers une foi profonde. Or, ce qui dérange les philosophes, c'est que cet élan religieux qu'il ranime soudain avec une force étonnante et qui lui vaut d'innombrables disciples, vient au moment le plus fort de la lutte contre ce qu'on appelle alors l'infâme, c'est-à-dire l'Église, le clergé, le dogmatisme, l'intolérance, ce qui fait que, vous le voyez, il se met les trois partis à dos, catholiques, protestants et philosophes, lui sont hostiles, pour des raisons différentes, mais le résultat est le même.
Je comprends que ça ne devait pas être facile à vivre tous les jours pour lui.
En effet.
Autre mot, le mot « citoyen » pour Rousseau, que recouvre-t-il ?
Il y insiste parce que, et c'est une catégorie dont il lui semble que de son temps on use et on abuse. On confond, dit-il, citoyen et cité avec ville. Vous êtes habitant d'une ville, donc vous êtes un citoyen. Et, dit-il en particulier, les Français, par exemple, s'appellent abusivement citoyens. Ce ne sont pas des citoyens, ils vivent dans une monarchie absolue, ce sont des sujets. Le citoyen est donc quelque chose de tout autre. Le citoyen, c'est l'homme, tel qu'il est conçu dans le contrat social, par exemple, c'est l'homme qui fait partie de la cité, c'est un patriote et qui, surtout, est investi de l'essentiel, c'est-à-dire de la souveraineté, autrement dit le pouvoir législatif qui doit appartenir au peuple. C'est ce qui donne au mot citoyen toute sa dignité et toute sa plénitude. Il est libre, il est indépendant, il doit au besoin mourir pour sa patrie. C'est déjà ce sens de citoyenneté qui conduira d'ailleurs parfois jusqu'au nationalisme aussi bien sûr, qu'appréciera particulièrement la Révolution. Hein, l'idée du citoyen en armes qui défend sa patrie, la levée en masse, etc. Ce sont des idées qui se trouvent chez Rousseau, bien sûr dans le contrat social où il l'explique, mais aussi dans les écrits politiques de législation, son projet de constitution pour la Corse par exemple, qui lui avait demandé en effet une législation, et ses considérations sur le gouvernement de Pologne quelques années plus tard.
Est-ce un mot qui apparaît souvent dans le contrat social par exemple ?
Oui, bien sûr, constamment, et qui apparaît un peu partout dans l'œuvre de Rousseau. Au fond, le mot « citoyen » qui vient de « quives » en latin, c'est le mot qui reprend pour lui toutes les valeurs que Rousseau trouvait ou pensait trouver, soit dans les républiques antiques du style Sparte ou Rome républicaine, soit, il devait d'ailleurs déchanter sur ce plan, soit au moins théoriquement, chez lui, à Genève, où le peuple, en effet, était, très théoriquement, détenteur du pouvoir législatif.
Un nouveau mot pour Raymond Trousson, qui va être un mot, je suppose, sur lequel vous allez avoir beaucoup à dire, c'est le mot correspondance, parce que s'il y a quelqu'un qui a correspondu, je crois beaucoup, c'est Rousseau.
Oui, bon.
Peut-être moins que Voltaire.
Ah oui, mais, oui,
beaucoup moins.
Voltaire, c'est le record, évidemment. Bon. La correspondance complète de Voltaire comprend environ 21 à 22 000 lettres, dont au moins une bonne moitié est de Voltaire, 10 à 11 000 lettres, c'est énorme. Donc, pour Rousseau, disons que si l'on décompte les lettres fantômes et les copies, etc., on arrive, dans l'édition qui est en cours d'ailleurs, à un total de 2388 lettres.
Ah, ben alors oui.
Ce qui n'est pas trop mal, c'est beaucoup moins que Voltaire, mais c'est beaucoup plus que Diderot, dont on ne conserve guère que 800 lettres. Rousseau est donc un homme qui a écrit toute sa vie, et les premières lettres conservées datent de 1730-31, et elles touchent évidemment tous les sujets. Il y a des lettres purement, disons, utilitaires, bien entendu, comme chez n'importe qui, de nombreuses lettres à ses éditeurs, et particulièrement à son éditeur hollandais, Marc-Michel Rey, où on voit d'ailleurs comment Rousseau traite ses œuvres, ses exigences à propos de l'impression, avec quel soin il suit tout cela. Il y a aussi, bien sûr, ses lettres à ses amis, en particulier à Diderot, à Madame d'Épinay, à celle qui sera le grand amour de sa maturité, Madame d'Oudeteau. Hélas, il va de soi que beaucoup de ses lettres ont disparu. D'abord, dans sa jeunesse, Rousseau a certainement écrit des tas de lettres à des tas de gens qui ont ensuite jeté à la corbeille cette lettre qui venait d'un inconnu et qui n'avait aucun intérêt. Et puis, il y a eu les pertes, il y a eu les oublis, il y a eu les destructions, il y a eu les déménagements. Sinistre, par exemple, qu'on ait de Madame de Varins qu'une seule lettre à Jean-Jacques Rousseau. Alors qu'il est évident qu'il a dû lui écrire, ne fût-ce que lorsqu'il est à Turin. Il le dit dans les confessions, il écrivait régulièrement à Madame de Varins.
Et elles n'ont pas été retrouvées.
Non, elles se seront très probablement perdues. Quant aux lettres les plus brûlantes, dit-il à Madame d'Oudeteau, elles ont été détruites par Madame d'Oudeteau elle-même. Et manque aussi certainement d'ailleurs des lettres à Diderot. Il connaît déjà Diderot depuis un an lorsqu'il devient secrétaire d'ambassade à Venise. Il est plus que probable qu'ils ont échangé une correspondance dont il n'est rien resté.
Est-ce que justement les lettres constituent un champ de recherche important pour les spécialistes de la pensée de Rousseau ?
Oui, à deux titres. D'une part, et ça en somme depuis toujours, les lettres apparaissent comme le complément parallèle indispensable aux confessions. On peut très facilement mettre côte à côte certains passages des confessions et certaines lettres, ce qui permet éventuellement soit de confirmer l'exactitude, la véracité des propos de Rousseau, soit au contraire de l'infirmer sur certains détails ou de donner différentes interprétations. Mais au-delà de cette valeur, disons purement documentaire, de témoignage, la correspondance est intéressante en soi aussi, d'abord parce que Rousseau y parle beaucoup de lui-même, et c'est un endroit où il se livre, peut-être, souvent en tout cas, plus directement, plus spontanément qu'il ne le fait dans les confessions, qui est une œuvre évidemment beaucoup plus élaborée, beaucoup plus construite, où il se contrôlait davantage. Elle a donc cet aspect important. Un exemple très simple et célèbre, ce sont les quatre lettres que Rousseau écrit en janvier 1762 à Malesherbes, le directeur de la librairie, et où il entreprend, devant ce Malherbe, pour qui il a de l'amitié et du respect, pour qui il entreprend de s'expliquer. Il a le sentiment que Malesherbes ne l'a pas compris. Alors il s'explique. Ces quatre lettres sont un extraordinaire prélude aux confessions. Et ces lettres sont, dit Rousseau, les seules qu'il ait jamais écrites d'un jet et avec spontanéité. Car il a horreur d'écrire des lettres. Pour lui, c'est une véritable torture. Là où la rapidité, la spontanéité de Voltaire font merveille, Rousseau, lui, patauge, fait des brouillons, rature, recommence. C'est pas du tout un épistolier spontané. Mais ces lettres demeurent aujourd'hui encore absolument passionnantes, et les lire d'un bout à l'autre, ou les relire, ce que je viens d'ailleurs de faire il y a quelques jours, les 3500 pages de ces lettres, permet naturellement de revoir tout Rousseau de 1730 à 1778.
Alors vous disiez que cette édition des lettres de Rousseau était en cours, vous y participez donc ?
Oui, l'édition complète des œuvres de Rousseau qui paraîtra en juin 2012 comportera 24 volumes. Sur ces 24 volumes, 7 sont consacrés, à la correspondance.
Donc oui,
là,
c'est dire l'importance, oui.
2388 lettres dont je vous parlais, accompagnées bien entendu d'index, de notices biographiques, enfin de tout ce qu'il faut pour que le lecteur
comprenne
et puisse s'informer sur le contenu des lettres.
Autre mot incontournable chez Rousseau, le mot « éducation ». Raymond Trousson, par où commencez-vous pour aborder ce mot ?
C'est évidemment un gros paquet. Eh bien, là encore, Rousseau a commencé de manière précoce. En 1740, lorsqu'il s'éloigne de Madame de Varins et des Charmettes, il trouve un emploi de précepteur chez le prévôt des marchands de Lyon, M. de Mably, qui a deux jeunes enfants et qui cherche un précepteur. Rousseau ne se montrera pas, il l'avoue lui-même, très brillant dans la pratique. C'est pas un homme pratique, ce n'est pas un enseignant génial. En revanche, il est beaucoup plus fort sur la théorie. Ce qui explique qu'il écrira, dès cette époque, un traité d'éducation, le projet d'éducation pour M. de Sainte-Marie, l'un des enfants de M. de Mably, où il exprime déjà toute une série de principes pédagogiques pour élever un enfant correctement. Le point de départ de ce qui sera alors les Mille se lie profondément à l'ensemble de sa pensée politique. Rousseau est convaincu, ce qui apparaît dans les deux discours sur l'inégalité, sur les sciences et les arts, que l'on vit dans une société profondément corrompue, où les vraies valeurs ont disparu. Que faut-il alors ? Il faut essayer, comme il dit, de choisir. Il faut choisir entre former un homme et former un citoyen. C'est pas la même chose. L'homme, dans l'esprit de Rousseau, est une monade autonome que l'on peut cultiver pour elle-même. Le citoyen, lui, n'existe que par rapport à l'ensemble social dont il est parti. Rousseau part donc du point de vue que l'homme étant naturellement bon, comme il l'a expliqué dans le discours sur l'inégalité, ce qu'il faut faire, c'est maintenir dans l'enfant cette bonté naturelle en écartant de lui toutes les influences néfastes ou délétères qui peuvent lui venir de l'extérieur.
C'est ce qu'il appelle l'éducation négative.
C'est ce qu'il appelle l'éducation négative, qui consiste non pas à apprendre, mais à laisser se développer l'individu selon sa nature propre, quitte, bien sûr, à reporter la se voir à plus tard, lorsque la raison et l'intelligence de l'enfant se sont développées, et en développant toujours ce savoir sur des questions d'observation pratique et non pas théorique. C'est un enseignement qui ne se fait jamais chez lui par les livres. Le seul livre que lise Émile, c'est Robinson Crusoe.
Dans la nature, donc.
Dans la nature, et surtout, c'est le livre de l'homme qui se tire de toutes les difficultés par lui-même, qui est parfaitement autonome.
Ce qu'il faut, citoyen, pour le coup.
Qui n'est pas citoyen, bien entendu, mais qui, au fond, applique un principe chez Rousseau essentiel. La liberté consiste, pour l'individu, à ne vouloir que ce que l'on peut réaliser. Il ne faut rien désirer au-delà de ses capacités. Si l'homme en reste dans ses limites, il sera heureux. S'il tente de les franchir, eh bien, il ira à la catastrophe. Et surtout, l'éducation d'Émile est une éducation qui veut en effet former un homme au sens de l'être humain et non pas une éducation qui vise à le former en fonction de la place qu'il occupera dans la société. Avocat, médecin, officier ou tout ce qu'on voudra. L'homme, c'est autre chose. Et c'est ça l'éducation.
Donc il éduque l'être et non pas le citoyen, en effet. Oui,
ni ça. Le paraître, mais ça signifie qu'avec Émile, on arrive à ce moment-là à la formation de l'homme qui pourra, lui, devenir le citoyen d'une cité formée selon le contrat social. Et ce qui le prouve, c'est qu'à la fin du livre 5, là où Émile voyage, Rousseau donne un résumé du contrat social, qui est comme l'aboutissement de cette éducation dans une société qui serait elle-même réformée. Donc les deux s'emboîtent véritablement.
Est-ce que pour Rousseau, l'éducation est la même pour le garçon et pour la fille ?
Non. Rousseau est certainement précurseur dans bien des domaines, mais c'est aussi un homme de son temps. Pour lui, la femme n'a pas l'intelligence rationnelle de l'homme. Elle est plus sensible, plus émotive, plus instinctive. Elle n'est pas non plus destinée aux mêmes tâches. L'homme, comme il dit, est fait pour marcher sur le devant de la scène, la femme pour le soutenir à l'arrière. Elle doit être une mère, elle doit être la compagne de cet homme. Ce qui peut nous sembler aujourd'hui évidemment assez bizarre, parce que ce n'est plus une position très féministe. Rousseau restitue d'une certaine manière une dignité à la femme, en faisant observer la dignité considérable de la véritable mère de famille, celle qui s'occupe de ses enfants, qui les élève, qui les soigne. Elle a un rôle, et elle a même un rôle en épaulant son mari, qui lui est fait évidemment pour marcher à l'avant. Et ce qui peut nous paraître bizarre, c'est que, au fond, les femmes, plus ou moins féministes, disons, de l'époque de la Révolution française, comme Thérouanne de Méricourt ou Olympe de Gouges, prenaient Rousseau pour un progressiste sur le plan du féminisme, ce qui nous ferait évidemment assez sourire aujourd'hui. De là aussi la différence colossale sur le plan religieux. Pour l'éducation du garçon, il ne faut pas moins de toute la profession de foi du vicaire savoyard pour lui créer sa religion intelligente et autonome. Pour Sophie, c'est beaucoup plus facile. Jeune, elle a la religion de ses parents, et mariée, elle a la religion de son mari. Elle n'est pas faite pour réfléchir à ces choses-là.
Et pourtant, l'un des reproches que l'on a fait à Rousseau, c'est de ne pas avoir lui-même éduqué ses propres enfants et sa famille. Alors, comment vous voyez cette affaire ?
D'abord, il faut bien distinguer. Rousseau s'est toujours opposé à ceux qui prétendaient tirer de l'Émile un manuel pratique d'éducation. Il explique, en réalité, l'Émile, c'est un traité assez philosophique sur la bonté naturelle de l'homme. Il ne faut donc prendre les exemples et les préceptes qu'il donne comme des règles de caractère général, qui ne doivent pas, évidemment, être appliquées à la lettre. Ensuite, il y a, bien sûr, très tôt, ce scandale. Voilà un homme qui se mêle d'écrire un traité d'éducation alors qu'il a abandonné ses 5 enfants. Il faut distinguer, d'abord, le Rousseau qui abandonne ses 5 enfants, entre 1746 et 52 à peu près, n'est pas encore Jean-Jacques Rousseau. C'est le bohème, c'est le traîne-patin, celui qui a des emplois précaires, qui ne sait pas comment survivre le lendemain, qui a un collage avec cette servante quasi illettrée qu'est Thérèse Levasseur. Il n'a pas les moyens d'entretenir une famille. Il est aussi dans la mentalité du temps, il le raconte d'ailleurs dans les Confessions, où, entre hommes à une table d'hôte, on parle beaucoup des enfants qu'on a fait à droite et à gauche, et où celui qui avait le mieux peuplé les enfants trouvés était toujours le plus applaudi. Propos machiste, si vous voulez. J'ai donc, dit-il, été entraîné par l'esprit du temps. Et puis il cherche, lorsqu'il avoue sa faute à Madame Dupin de Chenonceau, il cherche des prétextes qui montrent sa mauvaise conscience. Il explique, voilà, je suis pauvre, je n'ai pas de ressources, qu'aurais-je fait d'enfant ? Vous me direz, quand on n'a pas des moyens, on ne fait pas d'enfant. Si, madame, la nature exige qu'on en fasse. C'est vous, c'est votre état social, ce sont les riches qui ôtent le pain à mes enfants. Et il se justifie encore d'une manière assez artificielle, il faut bien le dire, en disant, après tout, c'est ce que Platon dit dans la République, il faut confier les enfants à la nation, ils seront non pas des écrivains ou des beaux esprits, mais ils deviendront de braves ouvriers, de braves artisans, ce qui vaudra certainement mieux que d'entrer dans une société corrompue.
Dernier mot que nous allons aborder avec Raymond Trousson, le mot qui est un mot, qui est plutôt un nom, et quel nom ? Le mot Jésus-Christ.
Ah, oui.
Quelle place tient-il chez Rousseau, Jésus-Christ ?
Mais là aussi, bien sûr, Rousseau devait se faire des opposants dans tous les partis. Il y a ceux qui dénigrent profondément la figure de Jésus-Christ, la considérant comme responsable, du moins dans l'exploitation qu'en a fait l'Église, de pas mal d'hypocrisie, d'intolérance, etc. D'où, très souvent, du moins jusqu'à une certaine époque, le profond irrespect de Voltaire, qui parlera par exemple de Jésus comme du pendu, ce qui est évidemment une singulière désacralisation de la crucifixion. Rousseau, lui, a vis-à-vis de Jésus une position qui, là aussi, est très personnelle. À aucun moment, on ne peut déceler chez lui la préoccupation, par exemple, de percer le mystère de la consubstantialité. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, ou est-il Dieu par adoption, ou est-il consubstantiel à la divinité ? Toutes ces questions ne l'intéressent pas. Pour lui, Jésus est avant tout une extraordinaire figure morale, qui a prêché la seule morale valable, et elle est contenue dans l'Évangile, et en particulier, bien sûr, par exemple, dans le Sermon sur la montagne. C'est ce qui explique que, alors qu'on l'accuse de ne plus être chrétien, puisqu'il ne prend pas Jésus pour le Fils de Dieu.
Oui.
Il répond, « Monseigneur, dit-il à Monseigneur de Beaumont, je suis chrétien, non comme disciple des prêtres, mais comme disciple de Jésus-Christ. » Jésus-Christ est donc celui qui a promu ce qu'il appelle une morale divine, c'est-à-dire éclairée par l'Esprit divin. Ce qui signifie nullement que Jésus soit perçu dans sa dimension théologique. C'est un homme éclairé par l'Esprit divin, un homme supérieur.
Porteur d'un message social ?
Porteur, bien sûr, aussi d'un message social, puisque Jésus, bien entendu, parlait des pauvres, ceux qu'il fallait aider, et critiquait, bien entendu, l'ordre social et la hiérarchie de son temps, autant de thèmes, bien sûr, qui sont communs à Jésus qu'à Maus. Ça ira très loin, puisque nombre de ses correspondants iront jusqu'à comparer Rousseau au Christ. Et il y a d'ailleurs, dans une des derniers témoignages de ceux qui l'ont connu, un passage tout à fait significatif. Un de ses amis voulait lui présenter quelqu'un, un jeune homme. Et Rousseau s'éclate, ah non, ne me l'amenez pas, il m'a écrit une lettre où il me met au-dessus de Jésus-Christ.
Si vous voulez poursuivre l'étude des mots de Rousseau, les mots que l'on trouve dans ses œuvres et dans sa pensée, les plus surprenants ou les plus fréquents, eh bien, consultez le dictionnaire de Rousseau, c'est à peu près 1 millier de pages, 700 articles, sous la direction de Raymond Trousson, notre invité, donc, et Frédéric et Geldinger. Ce dictionnaire est paru aux éditions Honoré Champion. Dans la première édition, je vous rappelle que nous avions fait un choix de 6 mots surprenants, inattendus, commentés par Raymond Trousson, botanique, musique, jeu d'échecs, prière, recettes et domestiques. Et enfin, que vous pouvez écouter une autre émission avec Raymond Trousson sur Canal Académie qui présente succinctement 4 auteurs majeurs du XVIIIe siècle, Voltaire, Rousseau, Diderot et l'auteur dramatique Antoine Vincent Arnaud, lequel était, comme Voltaire d'ailleurs, académicien. Merci Raymond Trousson de ces 2 émissions que vous avez bien voulu faire avec nous. J'espère qu'on aura une autre opportunité pour vous recevoir.
Je vous en remercie d'avance.
Merci infiniment.